problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC. On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit. Ok. Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là jusqu'à minuit avec Damien Perrinel, avec Ludovico Bragnac. Dans un instant, on parle du PSG. On parle également de Rennes, troisième de Ligue 1, de Lyon, un partout à Reims avec ce penalty hyper important manqué par Dembélé qui aurait pu ramener Lyon dans la course au podium. Lyon est lâché, on en parle dans un instant. Mais Marseille d'abord. Marseille, encore une très belle opération pour l'Olympique de Marseille d'André Villas-Boas. Une victoire ce soir. 3-1 face à Nîmes et Marseille. 38 points, deuxième de Ligue 1, 5 points d'avance sur Rennes, troisième, un match en moins certes, 7 points d'avance sur Lille,
comme on l'a
quatrième.
Dit. Félicitations.
Bravo les gars.
Bravo Villas-Boas, bravo aux joueurs. C'était loin d'être acquis et faire 38 points à la mi-saison, honnêtement, je crois qu'il n'y a pas grand monde, même les supporters de l'OM, je crois qu'ils n'auraient pas mis une pièce.
Hein. Et puis il faut voir sur quoi il a repris, l'équipe quand même, le champ de mine dans lequel il est arrivé, pas de recrutement.
Heureusement,
bravo, hein.
On en parlera quand même de ces recrues qui apportent toutes. Rongier apporte énormément. Alvaro apporte énormément également. Marseille a un effectif réduit, mais de qualité. Il en tire la quintessence.
C'est ça, en termes de budget, il y avait pas de sous. Aujourd'hui, il arrive à faire d'une équipe lambda de Ligue 1 un prétendant à la Ligue des Champions, ce qui est exceptionnel.
L'importance du management dans tout ça, où on dit bien sûr au-delà du simple coaching. Je crois que Villas-Boas a installé un nouvel état d'esprit. En tout cas, on sent de la gaieté, on sent une envie dans ce groupe d'être ensemble, de s'entraîner.
On sent surtout un rapport de confiance entre le coach et les joueurs. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les joueurs, s'ils ont des choses à dire au coach, ils peuvent dire, ils peuvent parler librement sans avoir des représailles ou une sanction éventuellement derrière. Et seulement cette relation de confiance joueur-coach est super importante dans un effectif.
J'ai l'idée aussi qu'il ait jamais lâché les joueurs en difficulté, alors que beaucoup les auraient peut-être lâchés ou enfoncés. Alors,
c'est vrai
qu'il n'avait pas un effectif, à dire très grand à sa disposition, mais relancer Jordan Amavi, c'était pas gagné.
Il a relancé Morgan Sanson aussi, qui était moins bien.
Protéger Rongier à son arrivée, en ne le faisant pas jouer tout de suite, sachant qu'il n'était pas tout de suite à 100% sur le plan physique. Benedetto, qui malgré des petits passages à vide, met ses buts et apporte beaucoup. Payet à gauche, moi j'y croyais pas, mais force est de constater que même s'il défend pas, on va dire que des fois il laisse quand même le latéral de son côté parfois en difficulté, mais
même
il doit dire qu'il a rayonné. On retrouve un Dimitri Payet beaucoup plus influent au cœur du jeu. Moi je le préférais au cœur du jeu, mais ce qui se passe et les résultats et ses prestations donnent raison pour l'instant à Villas-Boas, et il a pas craqué là-dessus alors que tout le monde aurait vu Dimitri plutôt dans un rôle axial. Voilà, c'est quelqu'un qui apporte un vrai plus et qui défend ses idées, donc chapeau à lui.
Mais même souviens-toi défensivement, même en début d'année, hein, quand tu voyais Tchaitakar et le premier match contre Reims, mais je me souviens où c'était, il y avait des courants d'air à tout va. En ouverture de championnat, et tu vois vraiment un joueur pareil qui reprend confiance en lui, qui monte en puissance, et là t'as une charnière centrale et ça te permet de faire remonter Bouba Camara au milieu de terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'équipe qu'il a alignée ce soir, c'est certainement son équipe.
Mais c'est un gars juste. En fait, tu vois, c'est un mec. Tu vois, on aime ça chez les coachs. C'est un mec qui est juste. Tu vois, Radonjić, il lui dit que bon, il l'aime bien en tant que super sub, parce que c'est vrai, à chaque fois qu'il rentre, il met 4 buts en 4 matchs. Mais je crois que dans l'esprit du joueur, c'est important de le faire débuter. Là, c'était très important. Oui. De le garder en tant que.
C'est très fin, c'est très.
C'est très important pour le joueur. Moi, je t'ai dit, je l'ai vécu. Bon, tu peux vite le perdre, le gars, parce qu'il se dit à un moment donné, c'est vexant. C'est vexant d'être,
d'être considéré comme un... Donc tu le fais jouer contre Nîmes à domicile.
Et là, tu le fais jouer parce qu'il l'a mérité. Je trouve que c'est...
Même pour revenir sur le match...
On va accueillir Damien, excuse-moi. On a beaucoup d'appels de supporters marseillais. Ravi, bien sûr, hein, après cette première partie de saison. Marseille deuxième, tiens. On va accueillir Vincent au 32-16. Bonsoir Vincent et bienvenue dans l'After.
Bonsoir
Salut Vincent.
Bonsoir
Vincent.
Bon, bah, tu mets combien toi, sur 20 à Marseille sur les 19 premières journées?
Franchement, là, je vais vraiment être généreux. C'est pas parce que je suis supporter de Marseille, mais je leur mets un beau 17.
Ah ouais, ouais, c'est normal. Évidemment.
Un beau 17, pourquoi? Parce que franchement, là, c'est vraiment, on ressent une équipe de Marseille qui vraiment s'est mise en place depuis le début du championnat. Malgré toutes les critiques, malgré tout ce qu'on pensait de l'équipe de Marseille qui a eu des grosses difficultés à se mettre en place, il faut être réaliste, il faut le dire. Là, franchement, on sent vraiment un effectif complet qui est vraiment solidaire, qui est soudé. On a un coach qui fait le travail derrière. Et franchement, je pense que ça se ressent au fil des journées, on le ressent de plus en plus. Et voilà, moi, je voulais vraiment les remercier parce qu'ils nous font vraiment, vraiment plaisir en ce moment.
Et qui a cheminé aussi pour trouver son équipe type, hein. Parce que là, tu arrives là quasiment sur le dernier match des phases d'aller.
Exactement.
Pour moi, c'est l'équipe.
Ouais, c'est ce que
elle est enfin là.
Et il
fallait avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de pouvoir sortir Strootman de ce 11. Tu vois, il fallait installer des mecs. Moi, je trouve
que Strootman était blessé. Hein. J'espère que maintenant, en effet, il va pas le remettre.
Tu vois quand même la différence quand il est là.
Il y en a un qui a réussi à relancer finalement, c'est Strootman. Il a essayé. Bah, il a enchaîné les matchs.
Mais tu peux pas.
De toute façon, c'est pour Strootman, il n'y a pas de problème.
Mais tu sais, faut pas oublier qu'il sorte quand même d'un match nul à Metz, il me semble. Et malgré ça, il n'y a pas eu de panique, de tension. Voilà, tout était assez calme. Après, sur le match de ce soir, je trouve, justement, j'ai eu peur qu'avant la mi-temps, il cède un peu aux provocations et à sortir avec les Nîmois, de sortir de leur match et d'oublier l'objectif. Et en fait, non, voilà, la mi-temps a fait du bien, je pense. Et tout de suite, ils se sont recentrés sur leur objectif. Ils ont rattaqué au taquet cette deuxième mi-temps. Et puis, il n'y a pas eu photo derrière.
Bon, Vincent, t'as réagi comment, toi, quand l'été dernier, Villas-Boas, lors d'une de ses premières conférences de presse, dit « Moi, je viens ici pour qu'on joue le podium ». Beaucoup avaient ri, hein, à l'époque. Hein. Beaucoup avaient ri.
Beaucoup avaient ri, effectivement. Moi, j'avais suivi, franchement, de très près son arrivée parce que il fait partie des coachs que j'appréciais déjà auparavant dans ses anciennes équipes. Et, c'est vrai qu'à son arrivée, c'est un coach qui inspire confiance. On voit que c'est quelqu'un qui est très réaliste, qui s'invente pas, et voilà, il s'invente pas une vie. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il est très réaliste, il est très juste dans ses décisions. J'ai écouté votre conversation avant la prise de parole et comme on disait, c'est vrai qu'il est très juste avec les joueurs et je pense que c'est ce qui fait que l'équipe est aussi soudée au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est très juste. Si un joueur mérite d'être titulaire, il va le titulariser. Si une personne est... Mais à contrario, quand un joueur est en... affaibli vraiment, mais il le fait travailler à l'entraînement, il le fait regagner confiance et aussitôt le fait regagner le terrain. Et ça, je pense que
c'est du management.
Et puis un coach, c'est comme un joueur, hein, de toute façon, ça progresse. Hein, parce que c'est vrai, quand il est arrivé, il avait cette image de coach de Chelsea où ça n'avait pas fonctionné, Tottenham, où c'était assez moyen. Mais un coach, plus il vieillit, et meilleur il est aussi, et plus il évolue. Et peut-être que dans son management, il y a des choses qu'il fait aujourd'hui à Marseille qu'il ne faisait pas à l'époque à Chelsea, et ce qui fait de lui un meilleur coach.
Après, ce qui fait bien sûr que le coach fait la différence. Après, il y a des joueurs qui se sont mis un peu aussi au diapason. Hein. Morgan Sanson, qu'on attendait depuis longtemps, nous fait une très belle première partie de saison. En tout cas, sur les deux derniers mois, il est incroyable. Valentin Rongier, mais je le vois avaler les kilomètres au milieu de terrain. Il est devant, il est derrière, il sprint. Tu sens vraiment, tu sens une volonté, une vraie volonté de sa part de vouloir venir dans ce club-là et de briller. Et pourtant, Dieu sait qu'il y avait de la pression sur ses épaules, hein, avec ce transfert plus ou moins avorté. Après, moi, j'attends. Ce qui est fou, c'est que cette équipe, elle a encore une marge de progression, notamment sur ses latéraux.
On va en parler justement. Merci Vincent d'avoir appelé au 32-16.
Merci à vous pour
excellente soirée à toi. Tu reviens quand tu veux dans l'after. Tiens, Fouad est avec nous. Bonsoir, Fouad.
Oui, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir Ludo.
Salut. Alors les gars, Fouad, avant de te donner la parole, je rappelle également que ce soir pour Marseille-Nîmes au Vélodrome, 20h45 à samedi soir, il y avait 60 000 personnes.
Il y avait du monde.
Il y avait du monde, tu vois, enfin, la preuve que le baromètre à Marseille, c'est ça en fait. Tu reçois Nîmes, c'est pas une affiche de Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille. Tu arrives à attirer 60 000 personnes au Vélodrome.
C'est ce qui les pousse.
C'est en train de renaître. Je crois que c'est réellement.
Je crois que c'est ce qui les pousse aussi, les joueurs.
Ah oui, t'as raison.
C'est que le fait que le public revienne, ça leur donne des ailes.
Bon, il y a un truc à faire, clairement, la fouette cette saison.
Cette année, ouais, il y a quelque chose à faire. Franchement, ça fait plaisir, surtout avec le stade Kecha et tout ça, l'équipe Kecha. Bon, après, c'est pas l'effectif, tu n'as pas un gros effectif, mais quand tu vois, je sais pas, il y a quelque chose comparé à l'année dernière, déjà contre les équipes comme Lyon, tu arrives à les battre. L'année dernière, c'était impossible. Contre les petites équipes, l'année dernière, tu gagnes de justesse, là, tu arrives quand même à gérer tout le match, quoi, à les dominer. Donc après, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que le championnat, il est encore très long. On est qu'à la moitié, et voilà.
Mais Fouette, t'as raison, les gars, je vais travailler là-dessus. Ouais. Marseille bat enfin des concurrents pour le podium. Le tournant cette saison, c'est Lille. Marseille-Lille. Vous rappelez, Marseille sort sur deux grosses défaites.
Où Villas-Boas se met une pression terrible en disant que Paris, c'est pas le championnat. Et c'est
tu perds 4-0 au Parc et 2-1 à Monaco en Coupe de la Ligue. Ouais. Marseille n'est pas bien encore, n'a pas lancé son championnat depuis ses 8 matchs, 7 victoires, 1 nul.
Il fallait assumer. Et ben, ma foi, le calendrier et les résultats lui ont donné raison. Donc ça lui a offert une crédibilité. Et du coup, je pense qu'il a emmené tout le monde avec lui. Quand les joueurs ont vu qu'ils étaient capables de battre des potentiels concurrents à ces fameuses places de Champions League. Le fait de voir aussi que Lyon est pas bien, c'est une opportunité incroyable pour l'Olympique de Marseille. Peut-être de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Ça a galvanisé tout le monde. Après, j'espère que la direction va quand même faire l'effort de peut-être, injecter. Je dis pas qu'il
faudrait le faire maintenant.
Je dis pas qu'il faut faire des folies. Juste remporter, renforcer.
Oh, attends, Fouad, on a du mal à t'entendre là. On va te reprendre dans un instant.
Après, pour finir sur ce que disait Fouad, je suis assez d'accord. Voilà, attention à l'enflammate quand même. On sait que ça peut aller tellement vite là-bas. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de Sanson, de Rongier. Mais il y a deux mois, ils ne mettaient pas un pied devant l'autre non plus. Donc là, c'est vrai qu'ils ont une série de résultats. Il y a un calendrier qui a été super favorable. Ils ont assumé, comme tu l'as dit. Ils ont battu Lille, qui était leur concurrent direct. Et aujourd'hui, ils sont deuxième. C'est normal quand on voit la différence de points avec le troisième. Mais on sait très bien qu'au mois de février et mars, Marseille, c'est jamais simple non plus. Donc,
D'où l'importance, je te dis, peut-être de
mettre un peu de 109.
Voilà, d'apporter juste un tout petit peu de fraîcheur avec un ou deux joueurs qui puissent venir compléter l'effectif. T'es jamais à l'abri de blessures. Ce qu'il y a aussi, c'est que l'OM.
Mais pas un Strootman de 32 ans.
L'OM, cette année, fait du frais par rapport à d'autres équipes qui jouent, qui épuisent beaucoup d'énergie dans la lutte à l'Europe.
Pas Coupe d'Europe. Ouais. Coupe de la Ligue, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à Coupe de France.
C'est peut-être ce qui pouvait leur arriver de mieux pour repartir.
Est-ce que c'est pas prémédité? Est-ce que c'est pas presque?
Non, non.
Je pense pas la Coupe d'Europe et la Coupe de la Ligue.
Oui, peut-être.
Je parle de la Coupe de la Ligue, bien sûr. Vous avez raison, hein. Foued, c'est vrai qu'il y a un calendrier. Il en a parlé, Villas-Boas, en conférence de presse. Il a conscience que la phase retour va être compliquée, vu du calendrier, Vous allez aller à Rennes, à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Lille, à Montpellier aussi, qu'on peut compter, à Lyon également. Voilà, ce sera pas la même.
C'est pas pareil. Après, ce qui fait peur, c'est l'effectif. T'as pas de banc, pour dire ce qui est. Si tu n'es pas à l'abri d'une blessure, tu perds un chef d'orchestre comme Dimitri Payet ou un Sanson ou un Rongier, ça peut.
Mais t'imagines que
ça
tout ça, c'est.
Toute l'équipe, hein. Tu perds juste un joueur, c'est là le souci.
Le rappeler, c'est aussi que tout ça, c'est Saint-Ovin. Hein. Quand même.
C'est ça. Est-ce qu'il a sa place,
c'est une recrue, ça, Ludo.
Je sais pas dans quel état il va revenir. Hein. C'est long. Hein.
Oh, ça fait combien de temps qu'il a pas fait un match de foot? Ça fait quoi? 5 mois, 6 mois? Mais tu reviens pas en 3 semaines dernier, comme ça, hein, avec le rythme. Hein. Tu reviens pas, c'est pas du jour au lendemain.
On parlait de l'équipe de France et de Pogba. Ça fait 6 mois qu'il a pas. Enfin, c'est depuis le début de la saison, il a pas enchaîné un match.
Il faut qu'il recommence. Il va être bien l'euro maintenant.
Tu te rends compte des efforts qu'il faut déployer pour pouvoir arriver au mois de juin, juillet.
Et surtout même retrouver juste les sensations d'enchaîner un match. Tu vas être bon sur deux matchs parce que tu vas être sur le dynamisme, mais après sur le fond. Ouais. Après, tu replonges, tu remontes, tu redescends, et ça c'est très facile
dur,
à gérer.
Très dur de revenir de longues blessures comme ça.
Merci Foued.
On est d'accord.
S'il n'y a pas podium, t'es déçu.
Franchement, vu la première partie de saison, si tu n'arrives pas à enchaîner, ce serait dommage.
Foued, est-ce que les supporters, on peut réhabiliter un tout petit peu Jacques-Henri Hérault?
Ah, bonne question.
Excellente question. Un tout petit, est-ce qu'on peut réhabiliter un tant soit peu Jacques-Henri Hérault?
Il profite de l'absence de Jonathan pour poser la question, lui.
Ça, je sais pas.
Bon, on va attendre, alors. Il a encore un souci.
S'il fait deuxième de Ligue 1. Ils ont la dent dure, les supporters.
S'il fait deuxième de Ligue 1, Ligue des Champions.
Non, mais tu vois, on l'entend moins et ça se passe beaucoup mieux.
Par contre, faut qu'il, non, sincèrement, si l'année prochaine on se qualifie pour la Coupe d'Europe, faut qu'il lâche un peu les pesos là, parce que
avec cet effectif-là,
tu joues contre le FC Bruges, tu t'en prends 4.
Il a raison. Le problème, c'est que tu joues contre le PSG qui est premier, t'es deuxième et t'en prends 4 au parc, et tu peux même t'en prendre beaucoup plus. Donc il y a énormément de différence déjà.
En Coupe d'Europe l'année prochaine, si tu recrutes pas, avec cette équipe, tu fais rien.
On est en droit de se poser la question, Fouette, puisque Franck McCourt est arrivé. Il a dit qu'il injecterait 200 millions. Il les a mis. Sauf que lui, il est venu à Marseille
Il est venu
du côté de Marseille pour récupérer quelques bons plans immobiliers.
Quelques mètres carrés, c'est ça. Pour acheter un studio, tu vois, ou un deux pièces.
Merci Fouad, excellente soirée à toi.
Merci à vous, bonne soirée.
Allez, bonne fête de fin d'année.
Les gars, on va se régaler, hein. 10 janvier prochain, vous savez qui joue Marseille?
Un petit Rennes.
Rennes-Marseille, 20e journée.
Et ça se passe toujours bien, les Rennes-Marseille. Il se passe toujours quelque chose.
Il y a toujours d'action.
On s'en fout, Arthur Robert me dit son anniversaire dans le variété. Pas grave, non? Ouais. Le producteur de l'after du week-end. On revient dans un instant, bien sûr, avec Damien Perrinel, avec Ludo Bragnac. On va parler de Lyon. Lyon est lâché au classement dans la course au podium. Lyon est à 12 points ce soir de l'Olympique de Marseille. Appelez-nous, supporters lyonnais, est-ce que vous croyez encore à une possible qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine? Sans Depay, on le rappelle, notamment, et sans Jeff Rennes-Adélaïde, que pouvez-vous espérer de la deuxième partie de la saison? A tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Avec Ludovico Bragnac, toujours un plaisir, et plaisir également avec Damien Perrinel. Alors, on nous dit sur Direct Studio, Damien, je ne savais pas que le président de la République, Emmanuel Macron, était à l'After.
Tu trouves qu'il y a un air de famille? Je trouve pas, moi.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est mes yeux?
Peut-être, ouais.
C'est un hasard, mes yeux, là.
La couleur des cheveux, peut-être vite fait, non?
Ouais.
Raté.
Non, rien à voir.
Voilà, j'aurais même pas dû le lire, tu vois, en fait. Raté. Un échec.
Lyon a-t-il dit au revoir à la Ligue des Champions ce soir? On va faire un point de classement parce que ça devient inquiétant pour Lyon. Et il n'y a pas que le classement, il y a également la situation à Lyon. Lyon est aujourd'hui, messieurs, 12e de Ligue 1 à mi-championnat. Plus qu'infamant pour le budget de Lyon.
Combien de retard sur la troisième place?
Lyon a 11 points de retard. À 12 points de retard.
Oui,
ça commence. Non, j'ai n'importe quoi. 12 points de retard sur Marseille et 7 points de retard sur Rennes, qui a également un match en retard, Rennes, à jouer à Nîmes. Bon. 7 points de retard. Mais bon, n'occultons pas également les blessés, les grands blessés à Lyon, Memphis Depay et Jeff Rennes-Adélaïde. La question est simple, est-ce que Lyon a dit au revoir avec des champions ce soir? Effectivement, elle est un petit peu radicale. Mais vu le contexte, on se pose la question. Appelez-nous supporters lyonnais au 32-16. Damien, pour commencer.
Le problème, c'est quand tu vois ce soir qu'ils ont l'opportunité de partir correctement, mais ils ont joué un quart d'heure dans le match, c'est le premier quart d'heure. Le reste du temps, c'est Reims qui a eu le ballon. Alors, c'était pas un match exceptionnel, hein, mais qui était à la limite le plus entreprenant. Le problème à Lyon aujourd'hui, c'est que, à mon avis, c'est qu'il y a les cerveaux qui sont atteints. Et je serais curieux même de savoir le bilan de points de Garcia comparé à celui de Silvinho sur le même nombre de journées. Parce que pour moi, c'est du surplace. Et là, quand on voit leur situation comptable aujourd'hui, mais je crois qu'ils sont au milieu. Ils sont entre limite jouer le maintien ou jouer la troisième place. Et ils sont au même niveau que Strasbourg ou que Saint-Etienne. Oui. C'est quand même qu'il y a un souci avec la qualité qu'il y a. On attendait un rebond avec Garcia, en fait, qui n'a jamais eu lieu.
Ludo, même analyse. J'aime ce sport parce que tu ne peux jamais rien tenir pour acquis. C'est-à-dire que même un club comme Lyon, tu fais un faux pas sur ton mercato en vendant trois de tes meilleurs joueurs et en ne te renforçant pas derrière ou en croyant pouvoir te renforcer. Pourtant, j'y croyais. Hein, j'y croyais à l'arrivée de Juninho. Je pensais vraiment que ça allait apporter un coup de fraîcheur et beaucoup de professionnalisme, d'autant plus
que ce qu'on avait vécu, que ce que l'on avait vécu précédemment. Ben, c'est un échec majeur quand tu sais que déjà t'as mis 40 millions sur deux joueurs qui sont si tu les sors de l'équipe et que tu les mets ailleurs, c'est pareil. Andersen et Jean-Lucas. Alors Jean-Lucas, on l'a pas beaucoup vu, mais
on l'a quasiment pas vu. Ouais.
Mais même la déception, Thiago Mendes.
Deux joueurs qui ont quasiment pas. Je ne vais pas dire commencer, mais Andersen, ça a été une catastrophe. Pour en revenir à mettre Marcelo, certes à l'extérieur, mais pour revenir et mettre Marcelo titulaire, c'est quand même que tu t'es trompé sur ce joueur-là. Donc, qu'est-ce qui peut sauver l'OL et une hypothétique place en Ligue des Champions ? C'est le mercato qui va arriver. Mais attention, mercato d'hiver, très, 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 très dur. Tu prends la pièce, tu la jettes en l'air, pile ou face. C'est-à-dire que tu vas essayer là, tu es en capacité pour relever le niveau de l'équipe et prendre des bons joueurs. Tu peux prendre que des. Ou alors il faut péter la tirelière. Je ne sais pas si Lyon est capable de le faire. Ou alors tu prends des joueurs qui sont en échec dans des grands clubs et qui ont besoin de jouer avant l'Euro.
Et donc qui n'ont pas été tendus.
Et donc qui ont eu. Qui ont un rythme ou qui sont dans une période. Pas la meilleure période de leur carrière.
Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Ludo, par rapport à l'arrivée de Juninho et même de Silvinho à l'époque. Tu te souviens le discours nous, on veut amener du professionnalisme, on veut amener un tas de choses, plein de choses vers le haut niveau, le don de soi, le goût de l'effort, ainsi de suite. Mais pour moi, ce sont eux, ils sont dans le vrai, en soi. Mais c'est l'effectif, au bout d'un moment, qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils ont voulu mettre en place. Donc l'erreur de casting, elle est peut-être là. C'était justement peut-être de s'adapter à l'effectif que tu as en place et de ne pas vouloir tout révolutionner tout de suite. Et là, aujourd'hui, ils en payent les pots cassés. En plus, ça, comme tu dis, tu fais un recrutement et tu te foires complètement sur ton recrutement. Pourtant, ils ont pris des sous quand même.
Parce que tu n'en as pas un qui sort du lot, du recrutement.
Non, malheureusement.
Même Thiago Mendes, que moi, honnêtement, je badais ce joueur quand il était à Lille. Je l'ai vu faire des choses.
Non, mais surprenant.
On avait fait
honnête. C'est Cacré qui prend le.
On trouvait très bon. À Lille, tu l'avais dit dans l'after de l'été. Thiago Mendes, super coup pour Lyon.
Ouais.
Ça va être énorme.
Mais tout le monde disait.
Pour l'instant, mais c'est ça. C'est encore une fois prévisible. Le gars n'y arrive plus. C'est plus lui. C'est plus le même joueur. On accueille Alexandre, supporter lyonnais au 32-16. Bienvenue dans l'after, Alexandre.
Bonsoir. Salut. Bonsoir à tous.
Bonsoir Alexandre.
Bon, c'est quoi ton sentiment après ces 19 premières journées de Lyon? Bon, j'imagine qu'il est amer.
Eh ben, mon sentiment, c'est que je suis dégoûté. Tout simplement. Voilà, les deux premières journées m'ont fait, entre guillemets, rêver. Je me suis dit, ça y est, c'est la bonne année. On va enfin pouvoir concurrencer le PSG. Et ensuite, eh ben, ça s'est effondré. Et puis, suivi de plein de mauvais choix pour moi. Ce mercato, à part Reine Adélaïde, il a été catastrophique, le mercato. Je comprends toujours pas le choix Rudy Garcia. Et voilà, donc j'ai le sentiment de je suis dégoûté, quoi. Quand on regarde les matchs de l'OL, on s'ennuie, c'est des purges. Donc voilà mon sentiment.
Je comprends la déception, d'autant plus que tu t'étais trompé une première fois avec Silvinho, mais ça peut arriver à tout le monde. T'avais décidé de prendre.
Ouais.
Et ceux qui me disent la Genesio mania là, qui nous disent que Genesio c'était mieux quand il était là et que c'était extraordinaire. Ben, oh, reprenez la saison dernière et regardez les matchs, s'il vous plaît.
T'as Ludo quand
s'il vous plaît.
Ludo, quand non, mais, tu vois que Genesio a amené Lyon encore en Ligue des Champions.
Mais tu as le droit de te tromper en disant voilà, Silvinho, on le fait venir, on prend un autre virage, on prend une autre direction.
Oui.
Ok, on s'est trompé. Par contre, là où pour moi tu rates le coche, c'est que tu rates le coche Laurent Blanc. Honnêtement,
oui, bien sûr.
Mais tu disais ça à l'époque.
Mais tu rates le coche Laurent Blanc qui venait probablement avec Jean-Louis Gasset et Franck Passy. Et là, t'avais une équipe, un staff qui tenait la route. Tu crois que Laurent Blanc, il peut attirer les mêmes joueurs que Rudy Garcia sur les mercato? Tu crois que Laurent Blanc, sur la philosophie de jeu, il peut pas apporter quelque chose de... C'est là où tu manques le coche. Mais Laurent Blanc ou un autre, hein?
Un Silvinho. Tu vas laisser combien de temps à Silvinho?
Ouais, mais t'as plus le temps.
Ouais, mais combien de temps tu lui as laissé? T'as changé ton directeur sportif, t'as changé ton entraîneur, et au bout de 2-3 mois, alors comme
t'as lu l'interview de Puel dans le, je crois que c'était dans le.
Ouais, aujourd'hui où t'es
magnifique. T'as lu son interview?
Ouais, quand il arrive, t'es que sur le court terme.
Tu l'as l'explication.
Je sais, mais à ce moment-là, quand t'es dirigeant et que tu assumes de changer ton entraîneur, ton directeur sportif, faut pas croire que ça va être un miracle et que d'un match sur l'autre, tu vas rivaliser avec le PSG. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est. Tu peux pas le faire déjà une recrue. Il te faut déjà un petit moment pour qu'elle s'adapte. Mais là, tu changes tout. tu vas quand même pas croire que tu vas jouer les deux premières places.
Mais me faites pas croire que vous en êtes à regretter Genesio, s'il vous plaît. Et Genesio, il a fait des belles choses, mais tu pouvais pas passer un cap. Alors certes, vous allez dire, ouais, mais on est en, certes, on a pas passé le cap, mais on est bien en dessous de ce qu'on avait.
Tu veux dire qu'il fallait tenter un coup, ils l'ont tenté, malheureusement, ça n'a pas été payé.
Non, c'est sur le deuxième coup, moi, que j'en veux. Le coup de Silvinho, c'est un coup tenté. Pourquoi pas? Tu peux mettre un coup d'épée dans l'eau, ça arrive de temps en temps. Tu peux te tromper, t'es pas surhumain. Jean-Michel Rouse, c'est pas surhumain.
Bien sûr.
Mais par contre, c'est sur le deuxième truc. Tu prends Rudy Garcia. Moi, je l'ai eu, Rudy Garcia. Donc, je vais pas dire des choses qui sont dures sur lui, parce que je connais l'entraîneur. Je sais qu'il a fait des très belles choses. Il s'est aussi planté pas mal de fois. Mais tu prends un entraîneur qui est clivant, mais plus que clivant vis-à-vis de tes supporters.
C'est peut-être pas ce dont t'avais besoin à ce moment-là. Ouais.
Explique-moi le
après
choix.
Quand il prend, oui, t'as raison, ouais. Il y a l'atmosphère, la rivalité avec Marseille.
Et tu sais que l'atmosphère,
Garcia,
c'est hyper...
quand il prend une équipe, les 6 premiers mois de la première saison, c'est une réussite. Mais à c'est la Marseille.
Mais
à
là
la
encore
Roma,
une fois, tu
avec Lille aussi.
Là sur ce coup-là, t'avais fait un grand virage l'été, tu t'es trompé et là tu joues petit braquet, tu joues petit
exactement,
bras.
Exactement.
Mais c'était pas ça ce qu'il fallait faire.
Alexandre, toi, qu'est-ce que tu préconises? Donne le bilan de Garcia, hein. Il est arrivé pour le match au Vélodrome, qui perd. Ça fait 10 matchs, toutes compétitions confondues, ça fait 4 défaites, 4 victoires, 2 matchs nuls, hein, je parle.
Oui,
tu veux continuer avec Garcia ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de messages, on va être très honnête, hein, on lit pas tous les messages.
Tu vas pas virer deux entraîneurs.
Non, attends. Sauf que là, c'est en train de monter, là. C'est en train de monter partout sur les réseaux. Arrêtons avec Garcia, stoppons l'hémorragie. Voilà.
Bon, les gars,
t'en penses quoi, Alexandre?
Tu vas dépenser combien en.
Ah oui, mais bon.
Il faut le garder jusqu'à la fin de la saison, de toute façon, ouais, maintenant, voilà. Mais je reviens à ce que disait Ludovico Bragnac. Il a changé de directeur sportif, oui. Il a changé d'entraîneur, oui. Mais pourquoi il n'a pas changé de staff?
Ah, ça aussi, ça, c'est une vraie question, tu as raison.
Au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, mais si même vous mettez Guardiola, Mourinho, mais avec le staff actuel, voilà, les grands entraîneurs, ils viennent avec leur bonhomme. Si vous laissez le staff actuel, vous avez vu que ça marchait pas avec Genesio. Pourquoi vous le continuez avec? Changez tout. Ouais. Laurent Blanc, il était prêt à venir, mais il voulait son staff. C'était la condition. Apparemment, Aulas n'a pas voulu. Ouais. Là, il a pris Garcia. Garcia, il est venu, entre guillemets, avec son adjoint et avec ce préparateur.
Mais non, il était malin, Garcia, parce que maintenant, ils arrivent. Ils arrivent maintenant, le nouveau staff.
Redis, je t'annonce. Il a arrivé la gueule. Moi, je prends l'existant. Vous inquiétez pas.
Ouais,
tout va bien.
Mais en fait, hop, voilà. J'en mets un petit moment, là.
Préparateur, attends. Mais t'inquiète pas. Tu vas venir.
Il a raison, Alexandre. Comment tu peux imaginer tout changer en faisant venir un mec avec le staff de l'ancien entraîneur qui s'est fait virer et que ça a fait toute une... Enfin, comment voulez-vous que ça fonctionne?
Exactement.
Comment voulez-vous que ça fonctionne? C'est là aussi où on peut revenir à Silvinho. Ils lui ont pas donné toutes les cartes en main pour qu'il puisse réussir.
Soit tu assumes ton choix de tout changer et t'y vas à bloc.
Ils ont joué petit bras dès le début.
Et il a eu la réflexion en plus, il me semble, le président Aulas. C'est-à-dire que c'était pas d'hier qu'il pensait à se séparer de Genesio. Donc il pouvait préparer cette succession. Et puis il a pris la décision de tout changer. Eh, va à fond.
Ouais. Merci Alexandre d'avoir appelé au 32-16.
Merci à vous.
Excellent soir à toi. Tu rappelles quand tu veux dans l'after. Tiens, Patrice également, supporter de l'OL avec nous. Bienvenue dans l'after, Patrice.
Ouais, bonsoir messieurs.
Bonsoir Patrice. Ouais.
Bon, on avait un Alexandre dégoûté. Vas-y.
Ah oui, je suis plus dégoûté. Moi, je suis écœuré. Si vous voulez, j'ai 57 ans aujourd'hui.
Bon
moi,
anniversaire.
Je suis content de l'OL. Ouais, non, mais pas aujourd'hui, mais il y a
j'ai compris. Depuis,
moi, c'est temps. Voilà, pas aujourd'hui, mais dans l'année, on va dire, voilà. Mais moi, j'ai vu jouer l'OL, il joue encore en deuxième division. J'ai vu jouer l'OL, avant que Aulas arrive. J'ai vu toutes les équipes de l'OL. J'ai vu les Eugène Cabobo, les Bouafia, j'ai vu Sonny Anderson arriver. J'ai jamais vu ça.
Pour t'es moi, en train de nous dire, c'est la pire équipe que t'as vue.
On a, par rapport aux équipes que j'ai vues, on a une équipe de tocards, il faut le dire. Moi, dans l'équipe, si vous voulez, aujourd'hui, on a une équipe de tocards. C'est les gens qui n'ont plus la mentalité, ils n'ont plus déjà la culture du maillot. Je me rappelle de Juninho, et je comprends Juninho, quand il était joueur, c'était un mec qui avait la haine de la défaite. À chaque fois qu'il marquait un but, je ne sais pas si vous vous souvenez, il embrassait son maillot, il embrassait les cuissons de l'OL. Moi, j'ai vu des équipes à Gerland, elles ne dépassaient pas le milieu de terrain, elles avaient la trouille de venir à Lyon, elles prenaient des 3-4-0, j'ai vu des Thiago, j'ai vu des Diladiara, j'ai vu des Malouda, des Gourou,
ah oui,
voilà, j'ai vu des joueurs comme ça.
Je peux en témoigner, Patrick, hein. je suis venu avec Metz 2-3 fois, je peux te dire qu'on est venu faire une séance de Vameval, hein. Je te dis
pas mais regarde, match. Patrice, aujourd'hui, t'as un Juninho qui veut ramener de la rigueur et qui va dire des choses dans le vestiaire après un match. Je sais plus quel match c'était où justement il fait passer le message qu'il était affligé du comportement des joueurs. Et t'as des joueurs qui se braquent. Et en gros, tu peux rien leur dire. Ah non, mais attends, moi c'est bon, je t'écoute plus, quoi. Non, mais au bout d'un moment, qui est le patron? Et surtout, les joueurs, s'il vous plaît, il y a un peu l'humilité de reconnaître que sur le terrain, vous n'êtes pas bon, et accepter ce fait-là, et accepter la critique.
Il faut se regarder dans la glace, On est l'Olympique Lyonnais, c'est bien, on a un super président, ok, on a un stade, on n'a jamais eu autant d'argent, on a une machine à cash, c'est le seul stade en France avec Auxerre, on est propriétaire de son stade. Voilà, c'est propriétaire de son stade. Il a mis des années pour le faire. C'est une machine à cash. Ils ont mis 100 millions d'euros dans le recrutement. Même autant, on avait les grandes équipes de l'OL, on n'a jamais mis autant d'oseille. On a recruté quoi? Thiago Mendes, je sais pas pourquoi, c'est l'ombre de lui-même. Je veux dire, aujourd'hui, moi, si je suis entraîneur, je vais virer tous les joueurs, je fais monter les jeunes du centre de formation qui sont culture l'OL et qui ont vraiment la niaque, et je vire tous les autres. Je garde Lopez et Depay. Il nous faudrait encore, voilà, 4-5 joueurs comme Lopez et Depay. Et là, on a une vraie équipe, avec des jeunes qui montent. Comme au temps des années 2010, regardez, dans les années 2000-2010, on a fait monter quoi? On a fait monter des Gourou, on a fait monter des Ben Arfa, et des Benzema. Regardez aujourd'hui où joue Benzema. Regardez, voilà. Mais aujourd'hui, c'est une catastrophe, ce club. Ce club, il est en train de mourir. Et moi, je suis écœuré. Moi, j'ai envie de pleurer. Là, je viens de voir le match. Un pénalty, c'est un cadeau du ciel. On loupe pas un pénalty.
Patrice, écoute la déclaration de Rudy Garcia il y a quelques minutes, qui dit, bon, soulagé visiblement que l'année se termine, 2019. C'est vrai que c'était une année terrible pour lui à Marseille et à Lyon. On peut dire, il dit ça, hein, je le cite, on peut dire qu'heureusement que 2019 se termine. On va dire qu'on est en manque de réussite ces derniers temps. On avait fait pratiquement tout ce qu'il fallait pour gagner ce match. Dans le contenu, cela m'a plu. On a eu l'occasion de gagner, on n'a pas mis le pénalty. On peut quand même encore dire qu'on est en course dans toutes les compétitions, en championnat, on est loin, mais rien n'est rédhibitoire.
T'as l'occasion de le perdre aussi.
Non, mais c'est n'importe quoi.
Parce que
quoi,
sur la fin du match,
le match lui a plu en tout cas.
Non mais attendez, il faut être raide, arrêtez. On est à 12 points de Marseille. Pour une fois, Marseille, ils sont devant nous depuis des années. Marseille, ils vont finir certainement deuxième, voire troisième, mais pas plus. Mais nous, on va jouer entre la 10e et la 15e place cette année. Il faut être honnête. Donc il faut l'oublier cette année. Pour la première fois depuis 20 ans, on fait une année catastrophique. Il faut le prendre en compte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut faire monter des jeunes comme les Cherki, etc., comme les Cacré. Il faut les faire jouer un maximum. Et d'autres jeunes du centre de formation, parce qu'on a toujours un excellent centre de formation. Donc ces jeunes-là, ils s'aguerrissent en Ligue 1 et recruter autour des joueurs. Il faut pour moi déjà préparer l'année prochaine. Faut l'oublier cette année. Si on fera peut-être un coup, allez, on va peut-être gagner. Peut-être, si on arrive, et encore, je suis pas sûr, à gagner une coupe de la Ligue, une coupe de France. Voilà, mais et encore, c'est un miracle. Mais le reste, faut l'oublier. On reviendra jamais. Cette année, elle est morte. Donc, on va faire travailler les jeunes, on va les faire bosser, et on va recruter des joueurs. Parce que le club de l'OL, il n'a jamais autant d'oseille que cette année. Moi, je me rappelle les équipes, les belles équipes jusqu'à 2012. On avait des Lissandro, on avait des Bastos, on avait des Pjanic, on avait des Delgado. C'est les joueurs qui avaient la niaque, ouais. Ça. Mais on n'a plus ça. On ne sait plus les recruter. C'est bizarre. Les Sien, les Diarra, les Thiago, ils sont où? On ne sait plus recruter des joueurs comme ça. C'est des joueurs comme ça qu'il nous faut. Il faut oublier les joueurs techniques. C'est bien les joueurs techniques.
Ah, mais là, ils ne sont pas du centre de formation, ces joueurs-là. C'est ce que tu as recruté,
dis. Non, mais il faut des joueurs qui aient la niaque. Il nous manque de la niaque, des joueurs qui
aient la niaque. Malheureusement, ça arrive. Il y a des cycles aussi.
Et pour aller dans le sens de Patrick, les minots, je vais pas les appeler les minots parce que ça veut dire que les petits gones ont fait du bon boulot à Toulouse, donc si tu veux, ils font pas pire que leurs aînés, hein, finalement, hein, donc pourquoi pas, c'est peut-être le moment aussi d'entamer une révolution dans l'effectif. Et de faire jouer ces jeunes-là, même si c'était pas prévu tout de suite, l'urgence fait que tu en auras peut-être besoin plus vite que prévu.
Ouais, voilà.
Parce que Cacré
au milieu, il a été loin de démériter à chaque fois qu'il a joué. Le petit Cherki, moi je demande.
Attends, les gars, vous me dites en fait préparer déjà la saison prochaine, oubliez celle-ci. Si c'est pas mort pour Lyon, on va être très honnête. Ça va être...
Mais c'est mort, pour moi c'est mort.
Tu vas avoir au mois de février, tu fais 3 victoires. Dans ce championnat, tu fais 3 victoires d'affilée.
Honnêtement, messieurs, est-ce que vous pensez qu'on peut finir deuxième?
Non, deuxième, non. En fait, ça va dépendre de ton mercato.
Et ben voilà. Ouais. Aujourd'hui, la France est tellement mauvaise parce que depuis 70 ans, on n'a pas un club qui a gagné une Ligue des Champions, à part Marseille, en 70 ans, parce que ça, faut qu'on en parle aussi un jour pour faire un débat là-dessus. Les huiles de la Fédération Française de Foot, j'ai jamais vu le président de la Fédération Française de Foot venir à l'antenne et dire, excusez-moi, j'ai honte, par rapport aux clubs italiens, espagnols et anglais, on n'est qu'un club qui a gagné une Ligue des Champions en 70 ans. Ouais. Il y a quand même un problème en France. On est quand même mauvais, on est quand même extrêmement mauvais. Même les Portugais, autant le Portugal, ils ont moins de moyens que la France. Ils sont devant nous. Regardez Porto, regardez Lisbonne. Ils ont plus de Ligue des Champions que nous. On est nuls. On est nuls à chier au niveau de nos clubs, au niveau européen. Il faut quand même se poser les bonnes questions au bout d'un moment.
Oh, Patrick, il est remonté. Patrice, il est remonté.
Patrice, il est remonté. Merci, Patrice, pour ton cri du cœur.
J'ai honte d'être français, moi, si je discute avec un anglais.
Merci.
Oh, Patrice, tu t'emballes. Allez.
Merci, tu vas un peu loin quand même. Mais Patrice, on l'entend en tout cas.
C'est la vérité. C'est la vérité.
Merci Patrice, reviens quand tu veux dans l'after. Hein.
Merci, avec plaisir, vous m'appelez, avec plaisir.
Vas-y,
prends Patrice. Un peu de l'exomil, Patrice.
Non, arrête. Toujours Daniel, il dit n'ouvre pas le gars, s'il te plaît. Non, les gars, donnez pas des idées non plus.
Non, mais va faire un 100 mètres, Patrice, ça va être
ouais, non, 100 tranquillement, mètres. Une petite infusion, et ouais. Puis on verra. Non, mais c'est vrai, les gars, sérieusement, ça va dépendre. Le mercato est plus que déterminant pour l'OL.
Ouais, mais comme on l'a dit,
là, mercato, qui, la question, c'est qui tu peux attirer.
Et puis surtout, dans la position dans laquelle tu es, la santé du club actuel, le dernier conflit que tu as eu avec tes supporters, qui, comme grand joueur, tu peux attirer dans ces conditions-là.
Un joueur, comme tu l'as dit, qui a un manque de temps de jeu, qui veut jouer le rôle, et qui a la peine, et qui peut venir 6 mois pour un prix pour se relancer. Voilà. On verra. Voilà pour Lyon. Ce soir, lâché au classement. Lyon à 12 points de l'Olympique de Marseille. Deuxième. Voilà, à l'instant, tiens, la déclaration de Petrov, vous savez, le président délégué de l'AS Monaco. Question posée
Jardim est prolongé.
Par le confrère de Canal Plus. Ouais. 4 ans de plus pour Léo Jardim, avec prime à la signature de 20 millions d'euros. Mais non. La question a été posée quand même par nos confrères de Canal+. Est-ce qu'il y aura un changement d'entraîneur? Non. Voilà, Jardim continue son aventure à Monaco. Il est fort, Jardim. Hein. Tu sais, quand il est sur le fil, à chaque fois, hop, il reste sur le fil et puis il
tout va bien dans le meilleur des mondes à Monaco.
Il peut remercier Ben Yedder et Slimani aussi.
Peut-être qu'il est dégoûté. Peut-être qu'il voyait Siver prendre le chèque sous le sapin, tu sais, là. Les 8 millions, là. Paf! Bah non, il va continuer. Non,
quand j'ai vu la compo de départ, honnêtement, j'y ai cru.
Voilà, donc, dans un instant, on parle de la nouvelle épopée rennaise. Oui, le génie breton est de retour. Ça se confirme. Julien Stéphan et son Stade Rennais, seul troisième de Ligue 1 avec 33 points. On en parle avec Ludo Bragnac et Damien Perrinel. Appelez-nous, supporter Rennais au 32-16. Bien sûr, à tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Avec Damien Perrinel, avec Ludovico Bragnac, on est ensemble jusqu'à minuit. On a fait Marseille, on a fait Lyon, on a fait Monaco. Voici Rennes, troisième de Ligue 1 ce soir, les hommes de Julien Stéphan. Et les gars, il y a encore un mois et demi, Rennes était 13e de Ligue 1. Bon, après on l'a dit, hein, c'est un classement, un championnat extrêmement dense. Rennes, 5 victoires consécutives, 33 points, 2 points d'avance sur Lille, 4e à 5 points de l'OM. Et avec un match en moins pour le Stade Rennais, ce sera face à Nîmes le 15 janvier prochain. C'est-à-dire qu'en cas de victoire, Rennes serait à 36 points, à 2 points de l'OM et avec 5 points d'avance sur Lille. Les gars, je vous pose la question frontalement. Hein. Est-ce que Rennes est aujourd'hui un des grands favoris pour une place en Ligue des Champions, au moins pour un troisième tour l'été prochain en Ligue des Champions?
C'est une question difficile. Hein,
je ne sais pas.
Ouais, ça tourne vraiment et puis ça tournait pas pendant un moment. Tu vois, il y a une certaine irrégularité qui fait que dans ce championnat, tu te retrouves 13e, bah, comme tu l'as dit. Bon, vous étiez sur le podium aussi et ils sont vite descendus. Tu vois, Rennes, ils doivent être, je sais pas, les équipes derrière, elles sont pas loin.
Elles sont à portée.
Ouais, là, elles sont à portée de tir. Donc, si tu veux, Rennes est constamment sur le fil du rasoir. Après, ce qu'il faut mettre en lumière, c'est le travail de Julien Stéphan. Moi, j'aime beaucoup cet entraîneur-là. Il est la figure de proue des jeunes entraîneurs français. Et moi, je préfère un club comme Rennes qui prend des risques avec un jeune garçon talentueux comme lui, plutôt que de recycler l'énième machine des mecs qu'on fait revenir, qu'on vire, qu'on fait re-revenir. Enfin, tu vois, je trouve que c'était un choix culotté de la part du Stade Rennais et un choix payant sur la durée. Et comme on le sait, dès que t'as une période difficile aujourd'hui, t'as 5 matchs sans victoire, on te met tout de suite une pression terrible en disant qu'il faut te virer rapidement. Ce garçon est jeune, ce garçon est talentueux, ce garçon a du caractère parce qu'il fallait tenir la baraque au moment où ça a soufflé.
Ça a tangué,
ça a soufflé. Et puis peut-être, tu vois, les huit victoires, pardon, sont après ce dernier match d'Europa League où ils vont se faire fesser cucu rouge à Glasgow. Je sais pas, peut-être le fait de se dire voilà, on en finit avec tout ça, pouvoir repartir sur
sur des choses qui sont plus conformes à notre quotidien. Et je sais pas, en tout cas, il a su garder les joueurs en haleine. Comme Thierry Lauré, il a apporté des changements. Il a pas hésité à prendre des sanctions sur certains joueurs qu'il a écartés puis réintégrés. Il a mis Ounou et Niang devant alors qu'il avait plutôt l'habitude de laisser Niang tout seul. Donc voilà. Il faut saluer les mecs qui ne pensent pas avoir la science infuse et qui parfois décident de changer de système, de bonhomme.
Mais t'as quand même du mal à vouloir t'enflammer avec Rennes. C'est incroyable, je trouve.
Bah, on est habitué à un écroulement en général en fin de saison.
Mais quoi. C'est ça le problème. Et puis de toute façon, tu pourrais là le bilan de l'Europa League, tu peux pas l'enlever. Il est là, il est présent. Et tu comptais sur lui justement peut-être pour faire passer un cap à cette équipe de Rennes au niveau européen. Et ça n'a pas été le cas malheureusement.
Mais pareil Damien, tu te qualifies. T'as vu le nombre de joueurs qui partent cet été?
Ouais mais attends, tu recrutes quand même
Morel, tu recrutes... Enfin, tu vois,
t'es censé prendre un peu d'expérience.
Ouais, mais justement, tu te renforces pas pour jouer l'Europa League.
Tu te renforces pas, mais tu peux montrer un autre visage quand même que ce que t'as montré.
Tu as l'effectif pour jouer comme il l'avait fait. Les outsiders en Ligue 1. Par contre, pour associer ça à l'Europa League, t'avais pas un effectif qui était assez ni en quantité ni en qualité. T'as le miracle de sortir le jeune qui sort
Glasgow.
Quand même, tu dois faire mieux que ça. Je suis désolé.
Les gars, en qualité, il y avait pas la qualité à Rennes sur ce recrutement.
Mais t'es censé faire mieux que Clouge quand même. T'es censé les taper à l'aller et au retour.
Les gars, négligez pas. Moi, j'ai joué 50 matchs d'Europa League.
Bien sûr.
Je peux vous dire que tous ces clubs qui sont là, aller jouer à Clouge,
c'est dur. Bien sûr.
Bien souvent, les meilleurs clubs de ces pays-là, qui ont la plupart du temps des internationaux qui jouent des grandes compétitions européennes et des champions et des
qui jouent vraiment l'Europa League en plus,
mais surtout
qui ont l'habitude de jouer ensemble.
Sur l'embellie, on va pas négliger aussi le calendrier ultra favorable de Rennes. Et puis il marque à la dernière seconde à Lyon la semaine dernière, ce qui tout de suite
il se procure des occasions aussi à Lyon,
c'est sûr, mais ce qui veut dire aussi c'est pour ça que c'est imprévisible, c'est illisible. C'est très dur de répondre à ta question là.
Non, mais je la pose frontalement, la question. Maintenant, Rennes est là. Maintenant, Rennes est sur 5 victoires consécutives en Ligue 1. Rennes n'a peut-être pas battu la Lazio aussi par hasard en Ligue Europa.
C'est l'épouvantail sur cette deuxième partie.
Ouais, c'est bien intéressant. Fred, supporter du Stade Rennais avec nous au 32-16. Bonsoir Fred et bienvenue dans l'After.
Salut.
Salut Fred.
Salut Fred.
Bon, victoire contre Bordeaux, 1-0.
Ouais, on sort du match là.
Ah, t'étais au stade?
On était au stade, ouais. Belle ambiance.
Bah, vas-y, raconte-nous l'ambiance, justement. Est-ce que le peuple rennais est en train de s'enflammer un peu ou alors un peu échaudé?
C'est un peu moins fort que pour la Ligue Europa l'année dernière. Mais ça commence à être pas mal.
Bon, tu vois comment, toi, la deuxième partie de saison pour le Stade Rennais?
Voilà, je pense qu'on a pris le bon ascendant. Nous, on compte bien aller au bout et jouer la deuxième ou la troisième place. Hein. C'est l'objectif. Hein.
T'as pas peur d'un relâchement traditionnel à Rennes en fin de saison?
Ils faut pas avoir peur tout le temps. Et relâchement, ça arrive, mais on l'a eu en début de saison cette année.
Et en fin de saison dernière aussi. Enfin, toi, ça t'es à cheval sur les deux.
Exactement.
Qu'est-ce qui te plaît dans la trajectoire rennaise? Ludo le disait à l'instant, quoi. Julien Stéphan, à une époque, certains commençaient à douter, même ici, dans l'after, du travail de Julien Stéphan. Certains l'ont brûlé extrêmement vite alors qu'il a fait un travail admirable la saison dernière.
Il y a des bons jeunes, on a eu pas mal de départs, clairement. Il a fallu quand même reconstruire l'équipe après l'épopée de l'année dernière, mais là, c'est là, ça y est, jouent ensemble et clairement, et je pense qu'ils peuvent envoyer du lourd.
Les gars, il y a un gars aussi. Les gars, quand même, enfin, juste pour revenir sur le mercato, quand tu prends Del Castillo, tu prends Jérémy Morel, tu prends Flavien Tay, tu prends
Rafinha
qui a galéré
les
18 millions.
Mois. 20 millions d'euros même.
Tu comprends pourquoi en termes de qualité tu fais pas le poids en Europa League. Voilà,
c'est aussi Rafinha, c'était un joueur référence de Portugal.
Non mais
c'est apporté quoi.
Je te parle sur l'ensemble de l'effectif. Je te dis que les changements qui ont eu lieu cet été, il y a des joueurs importants qui sont partis et ils ont pas été remplacés en termes de qualité.
C'est vrai.
Voilà,
mais clairement, hein.
C'est tout.
C'est le cas.
Mais en revanche, ça permet.
Donc, t'aurais voulu garder Atem Ben Arfa.
Mais pourquoi pas? Non. Mais c'est lui qui voulait pas rester.
Je sais pas, apparemment.
Mais si lui avait été dans l'état d'esprit.
Une grosse perte.
S'il fait pas son interview de merde à dire qu'il se fait chier à jouer, machin, parce que. Mais il pète les plombs tout le temps quand il. À chaque fois qu'il est bien quelque part, il, comme s'il y avait un truc chez lui où dès qu'il est trop bien quelque part, il faut que ça pète, il faut que ça claque. Et tu crois qu'il aurait pas été content d'être à Rennes cette année là plutôt que d'être d'être à l'arrêt là depuis 7 mois?
Non, il refuse tout. Ben Arfa.
Même à Nantes, il a pas voulu y aller.
Ouais, mais pas qu'à Nantes d'ailleurs apparemment. Il y a eu des belles propositions qu'il a refusées parce que bon, bref. Je voulais qu'on parle d'un homme, messieurs, c'est Mbaye Niang. Tu parlais toi de lui tout à l'heure pendant le RMC Football Show, Ludo. Cette année, 2019, je parle année civile, hein, 18 buts. Première fois qu'un Rennais marque autant de buts sur l'année civile en 50 ans depuis un illustre Rennais. Messieurs Quiz, attaquant Rennais, qu'a planté Suisse.
Frey.
Alexander Frey, 22 buts pour lui. Ouais. 18 en 2019. Non mais peut-être que ça a libéré le départ de Ben Arfa notamment, Mbaye Niang.
Je crois qu'il a pris plus de responsabilités. On le sent beaucoup plus mature. Ouais, j'ai l'impression qu'il avait ce besoin d'être un peu plus dans la lumière, d'être considéré comme le leader de cette équipe. J'ai l'impression que cette année, il est présent, on l'entend moins.
Il a mûri aussi.
Et puis
hein.
Tu vois, avant il était toujours dans les avec ses
dans
accidents,
dans les embrouilles.
Comme tu vois, et c'était le Balotelli français.
Exactement.
Et là, j'ai l'impression qu'il a pris un peu. Il prend ses responsabilités, plus de maturité. En tout cas, il fait une première partie de saison très intéressante et bonne pioche à Rennes qui a senti le coup en le faisant prolonger.
Fred, tu veux ajouter quelque chose?
Non, c'est bon.
Merci Fred.
Super Fred.
Bonsoir à toi.
Salut Fred.
Mais oui, enflammez-vous un peu les Rennais. Vous êtes troisième de Ligue 1, ça a du sens avec un match en moins après 18 journées. Messieurs, tiens, à l'instant une info qui tombe. Christian Gourcuff a confirmé en conférence de presse qu'il prolongeait d'1 an son contrat au FC Lens. L'officialisation arrivera prochainement.
Bah écoute, cinquième du championnat, je crois que c'était inespéré.
C'est étonnant, t'as l'impression que Nantes, c'est sur place, c'est encore cinquième. Bah ouais.
Mais c'est la loi de cette première partie de saison, c'est que tout le monde est capable, avec deux victoires, tu peux, tout est possible.
De toute façon, faut pas rêver, hein, quand t'es le dernier, l'avant-dernier, avec un nombre de points si faible, de toute façon, ça veut dire que les points sont distribués ailleurs.
Hein. Nîmes, Toulouse, là, ça.
Alors justement, je voulais en parler avec vous, les gars, parce que là, je crois que, il y a des miracles, dans le foot, ça existe, ça en fait des jingles dans l'after. Mais là, 12 points, messieurs, Nîmes et Toulouse, vous êtes plus inquiets pour qui? Pour les deux, parce que Toulouse, c'est encore catastrophique. Toulouse battu, balayé ce soir par Nice, 3-0.
Toulouse, t'as presque envie de te dire, ils ont frôlé la mort depuis trop longtemps. À un moment donné, il faut que le couperet tombe, notamment avec leur choix de direction, de joueurs, tout ça. À un moment donné, il faut que ça. Je te le disais, j'en étais presque venu avec certains auditeurs à dire voilà, Toulouse, faut que ça descende pour qu'ils créent quelque chose, un électrochoc, qu'il se passe quelque chose. Parce que là, tu peux pas
continuer. Mais vous, c'est clair là, Toulouse, il va tout droit, c'est sûr.
12 points. Je sens
si
pas.
Si t'en faut 38, il t'en faut 26.
Mais à la limite, moi, j'ai plus d'espoir. Au-delà du nombre de points, j'ai plus d'espoir.
3 nuls, quoi.
Que pour Nîmes.
Bah, bien sûr.
Que Toulouse. Parce que là, tout à l'heure, tu regardes un match pour le maintien. Dijon-Metz.
Oh là là.
Oh, mais tu vois ce qu'ils se mettent. Et tu vois l'état d'esprit des deux équipes. Alors, avec des erreurs et tout ce que tu veux, mais il y avait quelque chose. Toi, tu sens. Alors que là, 3-0.
Tu peux avoir des années où t'es en difficulté, où c'est dur. Ça peut arriver à tout le monde. Bon, eux, ça fait déjà un petit moment que ça dure.
Mais tu sens que ça lâche.
Mais putain, la base du football, tu sais que dans des matchs, notamment à l'extérieur, ça peut se jouer sur les coups de pied arrêtés. Premier coup de pied arrêté, le défenseur, il est à 3 mètres du joueur.
Non, mais là, regarde le comportement de Nîmes à Marseille.
Lâché, là, comment tu veux faire d'année. Cambouaré, qui pète un câble aussi. Et finalement, Dosévi, moi, je trouvais que c'était plutôt intelligent de sa part de l'avoir sanctionné financièrement et pas sportivement, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de se passer d'un joueur comme lui. Bah, tu décides de le faire jouer, puis tu le sors à la 38e.
Pareil
et puis
pour
un jeune joueur que tu avais décidé de lancer, pareil, tu le sors, tu fais deux changements avant la mi-temps. Ah, mais il est où le fil conducteur là-dedans?
4-3-0.
T'as pété un câble.
Mais encore une fois, tu vois Nîmes qui à limite résiste pendant une mi-temps à Marseille et qui essaie de s'en sortir avec leurs armes. Mais là, il y a dire qu'il y a même plus d'armes à Toulouse. T'as l'impression que
ils ont déposé les armes.
C'est ça.
Des précisions, messieurs, sur la réponse de Petrov à la question sur l'avenir de Jardim. On est mal compris. Il répond non, messieurs, pas de question là-dessus. Il est parti. Il a dit non, pas de question là-dessus. Il n'a pas dit non, il n'y aura pas de changement d'entraîneur. Il a dit non, pas de question là-dessus. Donc on verra. Il est encore un peu flou sur l'avenir de son coach, Leonardo Jardim, qui malgré sa nette victoire ce soir à domicile face à Lille. Messieurs, on s'est régalé. Je voulais qu'on parle du spectacle également et des buteurs. Là, j'ai le classement des buteurs sous les yeux. On a un Wissem Ben Yedder qui a 13 buts cette saison. qui est clairement la très bonne pioche de la Ligue 1, lui.
Dembélé.
Dembélé est à 10 buts. Attends, je le ressors parce qu'à l'instant, la page vient de sauter pour être.
Osimhen qui doit avoir 10.
Osimhen a 11 buts.
Et Diallo, il me semble Diallo encore marqué.
Oui, Diallo est à 10 buts ce soir.
Mbappé
est à 10 buts ce soir en 13 apparitions en Ligue 1. Voilà. Ben Yedder, premier 13 buts. Mbappé, deuxième 11 buts. Osimhen, troisième 10 buts. Comme Dembélé, comme Habib Diallo. Alors lui, c'est miraculeux. Hein. Il joue à Metz, il a 10 buts. Icardi est à 9 buts. Depay à 9 buts. On va pas le revoir cette saison. Neymar à 8 buts. Allez-y, on joue, les gars. Ben Yedder va être meilleur buteur.
Mbappé a été. Il a raté beaucoup de matchs hein, quand même. Hein, donc, je pense que Mbappé a pris. Ah, Icardi, il est où là-dedans?
Il est à 8ème à 9 buts. 9.
Ah ouais, il est loin.
Et non, mais c'est surtout qu'Mbappé, maintenant, il laisse moins croquer les autres. Il veut les marquer, ses buts. Oui, hein.
Le meilleur ratio, il est pour Mbappé. Hein. 0,92 buts par match.
Ça sera lui le meilleur but.
11 buts en 12 matchs joués cette saison en Ligue.
Ce sera lui.
Il va dépasser les 30.
Oui. Ce sera lui. D'autant plus que Neymar, c'est pareil, il aime bien le faire manger. Donc, si Neymar a décidé, ce sera lui.
Ouais. C'est nouveau d'ailleurs, on en parle comme ça, juste, on fait une petite parenthèse, mais ce nouveau système qu'ils ont enclenché, les deux, où Neymar vient au cœur du jeu. Avant, tu sais, il avait toujours besoin de toucher le ballon 2-3 fois. Là, il prend le ballon, il se retourne et sur un pas, il le lance à chaque fois.
Il y a qu'à voir
ça fait mouche à tous les coups.
Bien sûr, il y a qu'à voir le premier but hein, ouais. qui marque aujourd'hui. Alors, malgré une grosse erreur défensive d'Amiens, mais c'est en une touche de balle,
et c'est parti. C'est redoutable.
Et ça va
et c'est, 10 000. Ça va aussi avec le changement d'état d'esprit. T'as l'impression de Neymar qui joue avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus impliqué.
Il joue avec les qualités de ses partenaires, par exemple.
Voilà, envie de faire jouer les autres.
Pour une fois, ça. Le PSG est en train de monter en pression au fur et à mesure de la saison, de progresser. On verra. C'est en train de venir.
Rappelle-toi les 6 premiers mois avec Tourelle, quand il est arrivé, c'était du même acabit aussi. Ils harcelaient les mecs pendant 90 minutes, ils mettaient des.
Ouais, mais là, le fait de revenir justement à un niveau de jeu que correct après avoir passé des matchs insipides parfois, justement, je pense que c'est là où ça devient intéressant pour Tourelle et le PSG.
En tout cas, tu sens un changement vraiment notable dans l'état d'esprit depuis quasiment un mois.
C'est ça, exactement.
Mais si les deux ont décidé, dès que les deux ont décidé, en toute façon.
Mbappé, premier Français à inscrire 30 buts sur l'année civile, 30 buts en 2019, depuis 1969, et Hervé Révelli qui en avait marqué 31. Je crois qu'il est déçu, Mbappé, ce soir. Il aurait aimé battre un record, encore une fois, tu vois.
Enfin, il aura le temps de les battre.
Hein, il va y aller. Hein. 21 ans hier, Kylian Mbappé. Voilà pour lui. Voilà pour l'after, messieurs. Merci beaucoup. T'as pris du plaisir avec nous, affaire de l'élégance.
Comme d'habitude.
Totalement élégance compatible, Damien Perrinel.
Tout à fait.
Hein?
Bah, j'espère.
Et pas qu'élégance.
Il est plus beau que Jonathan ou pas?
Oh, largement.
C'était les derniers mots de Ludo ce soir, merci beaucoup.
Ludo. Bien Ludo, on va refaire des émissions, toi et moi.
On revient dès demain soir, l'after avec JB Abrébois, bien sûr. Ah, tiens, ils ont pas de match de Ligue 1, ils ont 3 heures d'after. Allez, débrouillez-vous, les gars. Amusez-vous et on va faire des bilans, évidemment, sur la saison 2019-2020. Excellente soirée à tous, merci Arthur
Robert.
Allez,
salut, bonne fête
également
à tous.
Également à Torres. Merci
amis.
Beaucoup, Ludo.
Ciao, ciao.
Excellente soirée à tous, bye bye.
Bonne soirée.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.